Le péplum au XXIe siècle avec Laurent Aquenin.
La question qui nous est posée est bien entendu une fausse question, c'est une question rhétorique. Hein. Le péplum est-il un genre cinématographique ? La réponse globale est évidemment oui. Ce qui est intéressant, c'est ce que nos deux intervenants nous diront tout à l'heure à propos de quelques aspects de cette question. Oui, d'abord parce que c'est un genre parce qu'on le désigne par un nom, à tel point qu'on peut même s'adresser à lui dans sa langue puisqu'on dit « ave péplum ». Et qu'on reconnaît en même temps que péplum venant du grec peplos, on a affaire globalement à un univers gréco-latin qu'on élargira bien sûr à toutes les marges orientales possibles. Donc ça c'est une première remarque. Le mot péplum apparaît, je vais y revenir dans un instant, le mot péplum apparaît au début des années 60, c'est-à-dire à l'époque où Claude Aziza vient de nous dire qu'il est un petit peu moribond, peut-être moins que ça, on nous le dira tout à l'heure, c'est-à-dire donc au début des années 60. Mais péplum veut dire costume, et les films de l'extrême fin du 19e et du début du 20e siècle, dont on a vu plusieurs exemplaires magnifiques ces jours-ci, on peut les voir encore, ces films sont des films à costume, c'est-à-dire à costume antique. Aujourd'hui, nous pensons costume, nous ne penserions pas spontanément à l'Antiquité. De ce point de vue-là, on est sans doute plus loin de l'Antiquité que, naturellement, il y a une centaine d'années. Film à costume, il suffit d'entrer dans le hall de la Cinémathèque pour s'en apercevoir. Et si on regarde les affiches, on verra aussi film à bodybuilding, je veux dire à personnages qui apparaissent torse nu, musclé pour ce qui est des hommes et chastement dévêtus, comme il a été dit, pour ce qui est des héroïnes. Et je me demande si ça n'est pas une définition du genre. Hein. Je me demande si ce n'est pas une des définitions fortes du genre, tout de même que ce qui peut nous apparaître comme une simple apparence. Deux mots d'une petite expérience personnelle. Chacun est entré en péplum à un moment ou à un autre. Moi, je suis personnellement, privilège de l'âge, il y a quelques-uns, entré à la fois en antiquité et en cinéma à la fin des années 50, parce que j'ai eu le bonheur d'être l'élève en classe de seconde au lycée Voltaire à Paris, ça veut dire quelque chose à mes voisins, d'Henri Hagel, qui nous a quittés maintenant il y a 3 ans, je crois, et que le cours de grec sur l'Odyssée, pour moi, se réduit à l'image d'Hagel nous disant la rencontre d'Ulysse et de Nausicaa, travelling, je faisais toujours ça, flashback. Gros plan d'Ulysse. Et pour moi, l'Odyssée, c'est travelling, flashback, gros plan d'Ulysse. Dans le même temps, on avait l'introduction à l'Antiquité et l'introduction au cinéma, même si la présentation de Hagel n'était pas du tout, pas précisément du style péplum. Une autre remarque, c'est l'époque, là, j'ai un tout petit regret, le programme est magnifique, on est même tellement débordé que même si on essaye de se libérer au maximum, on n'a vu qu'une petite partie les uns et les autres de ce qui nous a été présenté à la Cinémathèque ces jours-ci. Un tout petit regret, alors je le dis de manière plaisante, ça a manqué, ou alors j'ai raté quelque chose de péplum parodique. Et moi, le premier péplum que j'ai vu, ils sont tous un peu parodiques, évidemment, quand on les voit avec l'œil de l'historien. Mais enfin, certains sont explicitement parodiques. On reprendra la distinction entre l'implicite et l'explicite. Le premier péplum que j'ai vu, c'est le péplum Les Titans, qui doit être de 1961-62. Moi, j'ai besoin de regarder mes notes, à la différence de l'orateur précédent. C'est un film de Duccio Tessari avec Giuliano Gemma. Et pour moi, je crois que c'est Arrivano i Titani. Ça reste un modèle du genre dans lequel on est plié en deux de bout en bout et on ne s'interroge pas trop sur l'idéologie. Ce qui me frappe aussi, c'est la puissance. Alors, je vais arrêter là. La puissance du péplum sur le plan, comme diraient les pédants, de l'intertextualité. C'est-à-dire que le péplum, c'est quelque chose qui fait constamment signe à autre chose. Ça fait signe vers une histoire de fantaisie, si on veut. Ça fait signe vers des textes, vers... En voyant Caviria, on pense à Flaubert et à Salambo, évidemment, hein, et puis on voit bien que c'est D'Annunzio qui a composé les cartons. Ça fait signe donc vers la littérature, ça fait signe vers beaucoup, beaucoup de choses, vers l'architecture aussi, les reconstructions architecturales. Et un quasi-contemporain, je vais vous lire peut-être quelques lignes, et puis je m'arrêterai là, quelques lignes, si je les retrouve, d'un quasi-contemporain, pour moi, qui est notre plus grand comique en langue française, je pense, qui est Fellag, hein, auteur algérien kabyle, et qui dit ceci. À Tizi Ouzou, à la fin des années 50, au début des années 60, un dimanche soir, j'allais au Cinémonde voir La Guerre de Troie avec Steve Reeves. Les péplums faisaient fureur à cette époque. La valeur d'un film se mesurait aux dimensions des biceps du héros dessiné sur l'affiche. Pour nous, un grand acteur était un acteur musclé, et de ce point de vue, Steve Reeves était le meilleur. Je vous recommande de lire les 3 pages d'intertextualité entre le synopsis du film et ce qui se passe dans la salle, parce que la jeunesse sportive de Kabylie, la JSK, défend ses couleurs face, je pense, à Alger à l'époque, vous imaginez. C'est un match extraordinaire et il y a une intertextualité entre le film, entre l'aventure du film et le récit du match de foot. Et ça se termine par un but, mais je ne vous dévoilerai pas la fin, c'est un peu trop grivois. Voilà, encore un dernier mot. Il me semble que sur cette intertextualité, sur le fait que c'est un genre ouvert, c'est ça qui fait qu'il est immortel d'une certaine façon, à l'intérieur du genre lui-même, ce qui m'a frappé aussi en voyant les films ces derniers jours, ce sont les concurrences et les émulations dont on voit les traces. C'est Kevin Brownslow l'autre jour qui nous présentant Intolérance de Griffiths, que personnellement je n'avais jamais vu, mais je suis resté comme ça, il nous disait au fond, pour les passages antiques d'Intolérance, c'est-à-dire le morceau babylonien qui occupe peut-être les deux tiers du film, Griffiths voulait en 1916 je crois faire au moins aussi bien que Pastrone avec Cabiria en 1914. Et quand on voit les deux films l'un derrière l'autre, ce qui est quand même un privilège rare, hein, il faut un colloque de ce genre, il faut, pardon, une série de films de ce genre, une présentation de films de ce genre, on est extraordinairement frappé. En effet, il y a un jeu de mimétisme, d'émulation extraordinaire, mais qui nous a valu deux grands films. Tout de suite, je passe la parole au premier orateur, donc je vais vous dire deux mots, il corrigera si je me suis trompé sur ce qu'il représente pour nous, Laurent Aquenin. Laurent Aquenin est historien et critique de cinéma. Il va nous parler du péplum au XXIe siècle, point d'interrogation, quel type de péplum, quel péplum. Il est l'auteur, j'allais dire, quand je vois ce que vous avez écrit, je dirais, vous êtes dans la tradition de Cinema Paradiso, je pense, hein, c'est ça, le cinéma populaire. Il a écrit plusieurs ouvrages sur ce thème et il a écrit un livre sur le péplum, intitulé Le péplum, chez Armand Collin en 2009. Et je lui cède la parole.
Merci. Et puisqu'on en est à évoquer les souvenirs, Claude Aziza tout à l'heure parlait de l'UV qu'il avait créé à l'Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, sur le péplum. Et bien, dites-vous qu'en 81-82, je ne me rappelle plus bien, il y avait un jeune étudiant qui avait encore ses cheveux à l'époque dans ce cours, et voilà où ça l'a mené. Donc, c'est toujours aussi délicat de passer derrière lui. Ceci étant posé, oui, j'indique toujours que je suis historien et critique de cinéma, ce qui a le mérite de ne pas vouloir dire grand-chose, mais le fait est que, étant donné... Quand on est critique, on travaille sur l'actualité immédiate, les films qui sortent dans la semaine, pratiquement. Et donc, pour ce qui est du péplum du XXIe siècle, bien sûr, ça permet de chroniquer les films qu'on voit en projection de presse avant même qu'ils sortent. Et puis, au bout de quelques années, on peut commencer à basculer sur un autre regard, c'est celui de l'historien. Après 10 ans, 12 ans, on peut commencer à réintégrer ces films dans une histoire générale permanente du cinéma en train de se faire. Et c'est ce que je vais tenter de faire maintenant, puisqu'il s'est passé plus de 10 ans 12 ans pratiquement avec la mise en chantier de Gladiator, de Ridley Scott, et ça permet maintenant de commencer à avoir une autre histoire du péplum qui est en train de se dessiner peut-être. Donc voilà, on fait de l'histoire en cours, en quelque sorte, en cours, pas en cours de fac, en cours d'élaboration. Puisque, bon, on ne va pas revenir tout ce qu'on a dit sur le péplum, c'est un des genres cinématographiques les plus anciens, si ce n'est le plus ancien, avec le documentaire, il a subi de nombreuses métamorphoses. Et donc, il est couramment admis que c'est en 99-2000, avec Gladiator, que le genre a été rénové en l'an 2000. Alors, c'est amusant, parce qu'avant, c'était 2000, c'était une date pour les films de science-fiction. Et ce n'est pas un hasard si c'est Ridley Scott, pour moi, qui a relancé le genre, puisqu'il était aussi connu pour ses films de science-fiction. Et à vrai dire, j'ai toujours considéré qu'il y avait beaucoup plus de rapports entre les péplums et les films de science-fiction qu'avec tout autre genre, puisque le péplum nous emmène, d'une manière générale, sur un univers entièrement inventé. Il y a autant de rapports entre l'histoire et le péplum qu'entre le futur réel et le film de science-fiction. Nous sommes à peu près dans la même discipline. Gladiator est intervenu après une éclipse très longue du genre. Pas tellement au niveau des productions télévisuelles, du cinéma d'art-essai ou autre, mais en tant que cinéma de genre mainstream, c'est-à-dire production hollywoodienne, production à gros budget, production populaire. Depuis le milieu des années 60, le filon s'était totalement ou presque interrompu. dû à plusieurs raisons. D'une part, par la surexploitation du genre par le cinéma bis italien. Rendez-vous compte que dans les années 60, on faisait jusqu'à 30-35 films par an en Italie qu'on pouvait considérer comme des péplums. Et puis, d'un autre côté, les échecs monumentaux qu'ont été les deux dernières grosses superproductions du genre, la chute de l'Empire romain qui a provoqué la chute de Bronston et surtout Cléopâtre, le film de Mankiewicz qui a failli ruiner totalement la 20th Century Fox. Et d'une certaine manière, il a fallu que les derniers témoins de la débâcle de Cléopâtre aient totalement disparu du cercle des producteurs à Hollywood, mais vraiment les derniers, pour que peut-être on ait commencé à vouloir réinventer le genre. C'est d'ailleurs assez intéressant, Gladiator, quand on y pense, parce que c'est un film qui est à la fois très novateur, mais pas si novateur que cela. Novateur, il l'est sur un plan esthétique, avant tout, parce que c'est le premier péplum à faire usage des trucages par ordinateur, des trucages numériques. Donc, on aboutit avec Gladiator à une nouvelle esthétique du genre. Le numérique a permis de s'affranchir des masses de figurants, on les multiplie par ordinateur, de s'affranchir de la création des décors en dur ou par transparence, comme faisait Mario Bava avec ses petites maquettes ou ses peintures sur verre, pour les créer directement en infographie. Ça a donné aussi une nouvelle esthétique visuelle, puisque par l'ordinateur, on aboutit à des teintes beaucoup plus froides que le Technicolor flamboyant des années 60. Il faut un nom qu'on ne cite jamais, que je voudrais citer, c'est John Matheson. John Matheson, c'est le directeur de la photo de Gladiator, et c'est lui peut-être qui a inventé cette nouvelle esthétique froide que l'on trouve maintenant dans les péplums contemporains. Mais, d'un autre côté, Gladiator est finalement presque un film de transition par rapport au film suivant. De transition parce qu'il s'appuie, c'est un remake finalement inavoué, de deux films antérieurs. L'un, c'est la chute de l'Empire romain, puisqu'il reprend la même époque, Commode, Marc Aurèle, l'assassinat de Marc Aurèle. Bon, c'est quelque chose qui était fait dans la chute de l'Empire romain, mais aussi un film bis italien beaucoup moins connu. Mais il faut savoir qu'à l'époque des années 60, les films italiens étaient très largement exportés aux États-Unis. C'était même leur débouché principal, c'est là qu'ils gagnaient de l'argent. Et c'est un film qui s'appelle « Les gladiateurs les plus forts du monde », réalisé par Michele Lupo avec Roger Brown et Gordon Mitchell, dans lequel on retrouvait exactement la même histoire, à savoir un soldat valeureux trahi par l'armée romaine qui devient un gladiateur, qui combat masqué et à la fin il enlève son masque de loup devant le généraux qui l'ont trahi et il provoque une révolte grâce à des gladiateurs. Donc, c'est un film qui réellement prend sa source dans le péplum des années 60 et qui amorce, peut-on dire, la nouvelle vague du péplum qui a commencé à cette date. Peut-on parler de nouvelle vague à proprement parler ? Ce qui est sûr, c'est que la production en série, c'est fini. C'est-à-dire que plus jamais on aura, comme dans les années 60, ces dizaines de films produits par an qui a alimenté les salles de quartier. Pour la bonne raison, c'est qu'il n'y a plus de salles de quartier. Donc l'exploitation ayant totalement changé, la consommation des films ayant totalement changé, le circuit économique étant totalement modifié, la production en série du cinéma de genre n'existe plus. Peut-être pourrait-on parler, à la place de Péplum du XXIe siècle, c'est un titre que j'ai donné comme ça, pourrait-on employer la même expression que les critiques américains utilisent à propos du western ? Il parle de post-western. Pour parler du western américain, généralement, ils ne veulent pas parler du western italien, jamais, mais du western américain d'après Sam Peckinpah. Ils disent que voilà, Sam Peckinpah, pour le western, c'est la fin du western classique, c'est la toute fin. Et ce qui vient après, les films n'ont pas beaucoup de rapport les uns avec les autres. Comment peut-on comparer Clint Eastwood avec Dead Man de Jim Jarmusch, par exemple ? Donc voilà, ils mettent tout ça sous le titre générique de post-western. On pourrait peut-être parler de post-péplum. Sauf que, malgré tout, il y a des lignes de force depuis 10-12 ans assez nettes qui se dégagent. Est-ce que je voudrais explorer ici ? Bon, après Gladiator, tout de suite, il y a eu le succès planétaire de Gladiator a permis la mise en chantier de deux ou trois films qui étaient en projet depuis longtemps, que les producteurs n'arrivaient pas à mettre véritablement bouger le financement. Ça a permis de le faire. Le premier, ce sont des films, je dirais, à tendance nationaliste. Le premier, c'est le Vercingétorix avec Christophe Lambert, que vous avez peut-être vu, que Dorfman traînait depuis très longtemps, et je crois qu'il va le traîner encore très longtemps derrière lui, pour des raisons que vous comprenez. Mais enfin, c'était aussi un grand moment de cinéma d'entendre Christophe Lambert dire Gauloise, Gaulois, en haranguant les foules. Mais voilà, c'est un film un peu nationaliste, comme l'est d'ailleurs un autre péplum qui a été fait juste pratiquement à la même époque, qui est la dernière version en date du Covadis, cette fois-ci par Kavalerowicz, produit en Pologne et qui cette fois-ci était un manifeste à la fois national pour le cinéma polonais à partir d'un auteur national par excellence et puis qui en plus était un manifeste religieux catholique très fort, donc un manifeste polonais très, très explicite. Bon, mais une fois ces deux films-là passés, d'autres lignes beaucoup plus intéressantes se sont établies parce que ça a recommencé comme avant. Je veux dire, comme dans les années 60, il y a finalement encore deux pôles de production qui sont mis tout de suite en place, le cinéma américain d'une part, le cinéma européen de l'autre. Et comme avant, ces deux pôles vont faire des productions très différentes les unes des autres, mais avec des évolutions inattendues. Alors, si on commence par le cinéma américain, après Gladiator, qui, comme je l'ai dit, prend sa source dans les années 60, donc c'est Rome, c'est Commode, c'est la chute de l'Empire romain revisité, bizarrement, il va se passer un phénomène inédit. Jusqu'à présent, jusqu'à la fin des années, au milieu des années 60, le cinéma, le péplum version américaine, avait comme sujet pratiquement unique Rome et un peu l'Égypte, quand il s'agissait de faire des péplums bibliques, et exception faite de la Terre des Pharaons de Howard Hawks. Mais c'était Rome. Rome dans Covadis, Rome dans La Tunique, dans Les Gladiateurs, bon, dans les films sur César, jusqu'à Spartacus d'ailleurs. C'est toujours Rome. Et Rome servait un petit peu de modèle, projection, représentation des États-Unis, tout simplement. Et quand on parlait de Rome, de ce qui arrivait à Rome, on parlait plus ou moins d'une manière fantasmée ou idéologiquement marquée, comme l'a indiqué Claude Aziza, de la situation des États-Unis. Et alors, bizarrement, depuis 10 ans, Rome, au cinéma, aux États-Unis, est quasiment absente. Et c'est la Grèce qui a pris le relais. Il y a une floraison de péplums qui prennent la Grèce. Alors la Grèce mélangée, Grèce historique, Grèce mythologique, Grèce néo-mythologique, mais c'est la Grèce. Prenons les films, dans le désordre chronologique qui est le plus amusant. Il y a eu 3, produits, réalisés par Wolfgang Petersen, mais produits sous l'égide de la Warner. Alexandre, d'Oliver Stone, Les 300, on a eu Le Choc des Titans, production également Universal cette fois-ci. On nous annonce pour l'automne une nouvelle version de mythe de Thésée. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que la Grèce, jusqu'à présent aux États-Unis, c'était terra incognita. Là, c'est du latin. Il n'y a eu qu'un ou deux films. Il y avait la première version des 300 Spartiates, La bataille des Thermopyles de Rudolf Maté, c'était une série B. Il y avait une série Z complète, Atlas, de Roger Corman, avec 12 figurants. 12, je dis bien, je les ai comptés. Et il y avait la première version d'Alexandre le Grand, le film de Rosen. Mais c'est très, très minoritaire. Et là, au contraire, majoritairement, ce sont des films grecs. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Peut-être qu'il y a eu un déplacement du fantasme, un déplacement de l'exotisme de l'Antiquité. Peut-être aussi que Rome ne signifie plus rien actuellement au cinéma pour les États-Unis. Parce que par contre, la vision que le cinéma hollywoodien a de la Grèce au sens large est vraiment passionnante. Le premier exemple qui est vraiment étonnant, c'est Troie, le film de Wolfgang Petersen, qui est donc une nouvelle version de La guerre des Troies, de l'Iliade, enfin un mélange encore une fois de Virgile, de Homère, etc., puisque c'est centré sur Achille, qui cette fois-ci se trouve dans le cheval, mais pourquoi pas, hein, je veux dire, la mythologie, par définition, est sujette à des variations, rien n'est figé. Mais ce qui était vraiment passionnant dans le cas de Troie, le film, c'est l'époque où il a été tourné, et si on veut faire un rappel idéologique, alors là, il suffit de faire le squelette du scénario, pour comprendre ce dont il s'agit. Troie raconte comment un roi très puissant, en l'occurrence là il s'appelle Agamemnon, a vraiment une épine dans le pied et un lourd contentieux avec un pays lointain. Il monte une coalition avec d'autres rois, d'autres gouvernants, pour aller attaquer cette cité dans le désert. Il fait tout un débarquement avec cette coalition, mais ça ne se passe pas comme prévu. Et là où ça devait se régler en 15 jours, il va y rester plusieurs années. Bon, évidemment, tout rapport avec l'actualité ne serait que coïncidence, mais je n'y crois pas. Plus intéressant aussi se trouve dans ce cas-là le personnage d'Achille. Alors des Achilles, il y en a eu beaucoup au cinéma, mais là c'est Brad Pitt, qui est passionnant parce que c'est là où se passe quelque chose d'intéressant, qui est allié, mais à l'insu de son plein gré ou malgré lui. C'est-à-dire que c'est un combattant né, C'est le GI absolu fantasmé, mais qui lutte à la fois pour Agamemnon, mais en tout en le détestant profondément. Donc ce rapport très curieux qu'il y a entre ce héros typiquement américain, je veux dire, c'est vraiment le cow-boy solitaire aussi, Achille, dans ce film, qui est à la fois un combattant hors pair, mais qui est en même temps réfractaire à l'autorité de son pays, reflète bien un petit peu quelque chose de très, très fort dans le cinéma américain, qui s'inscrit dans une tradition alors beaucoup plus ancienne du cinéma américain, y compris dans le western, du héros solitaire et aussi d'une défiance par rapport au gouvernement actuel au moment de la réalisation du film. Et puis alors, ça peut se décliner dans les films suivants. Par exemple, quand on prend Alexandre, qui n'a pas du tout, bien sûr, la même envergure, puisque ce n'est pas vraiment un film épique, même s'il y a de grands passages de bataille. Là encore, c'est une vision totalement fantasmée d'un conquérant, cette fois-ci civilisateur, qui va être trahi malgré lui, qui va être trahi, qui va pas aller jusqu'au bout de son rêve. Mais c'est aussi cette vision, alors encore une fois, voir ça au niveau de la Grèce pour les États-Unis, c'est assez neuf. Et puis, autre version, on en a parlé tout à l'heure, c'est 300 de Jack Snyder. Alors là, c'est un film totalement passionnant, adapté donc d'un roman graphique, mais qui est à la confluence dans le cinéma américain des deux tendances qui étaient déjà à l'œuvre un petit peu avant. D'un côté, le passage de Rome à la Grèce, en l'occurrence Sparte, comme représentation des États-Unis, et au niveau de l'esthétique, alors là, l'assimilation de toute la modernité esthétique est arrivée par les ordinateurs, par la palette graphique et par les jeux vidéo. Il faut bien comprendre aussi que les jeux vidéo maintenant amènent plus d'argent que le cinéma dans l'économie américaine. Un jeu vidéo est plus rentable qu'un film, que donc l'impact du graphisme des jeux vidéo est indéniable et très très important dans l'imaginaire visuel maintenant des spectateurs de cinéma au sens large, parce que quand on va au cinéma maintenant, la plupart des spectateurs jouent aussi aux jeux vidéo. Il y a donc maintenant une confluence à la fois d'interactivité, d'esthétique et, peut-on dire aussi idéologique, entre jeux vidéo, jeux d'arcade et cinéma, les 300 prennent l'ensemble de ces composantes pour en faire un seul film avec la même chose un petit peu que pour 3, à savoir le fantasme d'une cité idéale, une cité guerrière, Sparte, affranchie de la religion, très important. Le roi Léonidas, dans le cas de 300, est obligé d'aller combattre parce qu'il est empêché de partir à guerre avec toute son armée par les religieux, sur qui il n'a pas le pouvoir. Et lui et ses 300 partent seuls, comme Achille combat seul, donc toujours cet esprit d'indépendance du guerrier solitaire, dans une aventure qui est entièrement tournée sur fond vert, retravaillée en palette graphique et en effet numérique. Donc ce film-là, pour moi, est vraiment fondamental parce qu'il donne tout à fait l'esthétique actuelle et l'enjeu du cinéma américain contemporain. D'ailleurs, il a eu un impact assez fort au moment de sa sortie. Il faut bien comprendre que même les corps des personnages sont travaillés à la palette graphique et que le mouvement des caméras, le mouvement des images est dérivé des techniques des jeux vidéo. Je tenais vraiment beaucoup à passer ce passage, d'une part parce que ça met en forme, et puis aussi pour montrer la complexité esthétique de 300 qui prend à la fois, donc comme je dis, à toutes les disciplines, y compris aux représentations classiques de la statuaire, de la peinture, telle qu'on a pu le revoir dans les manuels scolaires depuis très longtemps, alliée à, pour ceux d'entre vous qui pratiquent les jeux vidéo, vous aurez reconnu certains mouvements que l'on peut faire d'arrêt, d'accélérer ou autre dans certaines consoles, avec le personnage qui se bat et que l'on voit comme ça en arrêt, en accéléré. Bon, c'est tout juste si le spectateur n'a pas son joystick dans la main. C'est très intéressant parce que ça inclut donc comme ça la concordance de plusieurs disciplines audiovisuelles actuelles. Et ce n'est pas un hasard si c'est un péplum, puisque comme je l'ai dit...